Éternel notre Dieu, tu es vivant, tu es puissant, tu es grand, tu es redoutable, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi qui dis une chose et elle arrive, quand tu ordonnes, elle est exécutée. C'est toi qui as la capacité, ô mon Dieu Père, de faire vivre et de faire mourir. Tu es le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi nous te disons merci. Pour ce soir encore, tu as permis que nous puissions être là. Sans toi, nous ne serions pas là. Mais comme nous sommes là, nous te disons merci. Merci pour les cantiques qui sont montés vers toi. Merci, ô mon Dieu, mon roi Père éternel, pour nous qui avons eu cette grâce d'arriver encore à ce lieu. Nous te disons merci pour cela. Nous n'avons rien mérité, tout n'est que grâce. Et comme tout n'est que grâce, Seigneur Jésus, nous venons devant toi pour te dire merci. Merci Seigneur, parce que nous savons que Père éternel, nous ne sommes pas venus pour vendre, pour, ô mon Dieu Père, nous faire voir, mais nous sommes venus pour venir écouter une parole qui est éprouvée. Quand cette parole est éprouvée, Père, cela a une grande importance pour nous. Sois donc favorable pour nous ce soir. Merci parce que nous sommes des invités autour de la table du Seigneur. Nous te disons merci pour toutes choses. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Nous t'avons ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur par la simple raison que nous sommes encore comptés parmi les vivants par Amen. Sa grâce, n'est-ce pas? Nous devons lui être très, très reconnaissants. Nous lui rendons donc grâce pour cela. Nous sommes en train de passer des moments terribles à cause de l'affliction que nous éprouvons pour la mort de notre bien-aimé frère Jedija. Sa parole nous dit, plus précisément dans le psaume 86, verset 10, j'ai noté ceci, « Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. » Vous avez bien écouté? « Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. » Ceci justement pour nous montrer la grandeur de Dieu, n'est-ce pas? Quand David le dit, il veut justement attirer notre attention sur la grandeur de Dieu. Donc, si Dieu était si grand du temps de David, pourquoi ne le serait-il plus ce soir pour nous? Hein, mes frères et sœurs? À quoi sert-il s'il est de l'histoire et pas du présent? Nous avons besoin d'une réalité vivante. Si, du temps de David, David a pu dire « Quand tu es grand et tu opères de prodiges, toi seul, tu es Dieu. » Donc, nous devons aussi, nous, au moment où nous sommes ici, expérimenter aussi ce Dieu dont la grandeur a été constatée par David. Pourquoi pas nous? Il ne restait pas dans le tiroir. Il ne restait pas dans le futur. Mais le présent, là où nous sommes, il est aussi un Dieu de prodige, n'est-ce pas? Il est aussi un Dieu grand. Quel que soit ce qui peut arriver, il reste un Dieu de prodige. Et lui seul est grand, n'est-ce pas? Alors, ce soir, nous allons un peu laisser notre recherche d'un homme qui peut se tenir à la brèche, n'est-ce pas? Nous laissons un peu ça de côté pour réfléchir autrement ce soir, selon le contexte du moment, selon les circonstances du moment. Alors ce soir, je voudrais lire dans trois endroits dans l'Ancien Testament pour avoir seulement le contexte de la parole du Seigneur ce soir. Nous irons dans Genèse 1, verset 17. Ça, c'est le premier texte. Et après Genèse 2, 17, nous irons dans le livre des Psaumes, chapitre 89, verset 49. Enfin, le troisième texte, nous l'aurons dans Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, versets 7 à 9. Premier texte, Genèse 2, verset 17. Vous y êtes? Mais pour bien comprendre le verset 17 dont nous avons besoin, je pense que nous devons aussi prendre le verset 16. Ça va? Mais sinon, c'est le verset 17 dont nous avons besoin. Commençons au verset 16. Il est écrit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. Tu mourras certainement. Pas peut-être tu mourras. Non, mais tu mourras certainement. C'est affirmatif. C'est dans un ton affirmatif. Prenons le psaume 89, verset 49. Vous y êtes? Alors lisons. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Question, hein? Ça va? Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, 7 jusqu'à 9. Qu'est-ce que nous lisons? Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et le pleureur parcourt les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Voilà trois textes qui vont nous donner les contextes de la parole du Seigneur ce soir. Alors, la parole du Seigneur ce soir, je l'ai puisée à travers les trois textes. Chaque fois dans les trois textes, je retrouvais le mot mort, 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 mort. Alléluia. Alors je voudrais ce soir que nous puissions nous entretenir sur le sujet que j'intitule le temps de la séparation. Alléluia. Le temps de la séparation. Dans Genèse 2, 17, le Seigneur est affirmatif. Et dans les psaumes 89, verset 49, on pose une question précise. Et dans Ecclésiaste 12, 7, 9, on nous décrit qu'est-ce qui se passe quand la mort intervient. Ou bien, quand on atteint la vieillesse, qu'est-ce qui se passe? On nous décrit, on n'a plus faim, on n'a plus la force de la jeunesse. Le temps de la séparation. Les trois textes ici nous ont donné le sujet. Mais pour parler de ce sujet, j'ai choisi un autre matériel didactique. C'est Ecclésiaste 7,14. C'est Ecclésiaste 7,14 qui va nous permettre d'aborder la parole de ce soir, le temps de la séparation. Alors, lisons encore ensemble Ecclésiaste 7,14. Qu'est-ce que nous retenons? Ecclésiaste 7,14. Lisons ensemble. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Alléluia. Nous avons eu notre thème à travers les trois textes maintenant. Ecclésiaste 7,14, ça sera notre matériel didactique pour présenter le sujet de ce soir. Nous savons que la mort peut provoquer une gamme d'émotions chez l'humain, n'est-ce pas? La tristesse, le chagrin, la peur, le choc, parfois la rébellion, parfois la colère, n'est-ce pas? Mais le sage Salomon dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, cher ami, réfléchis. Alléluia. Réfléchis au jour du malheur. Le moment est vraiment favorable pour que nous puissions nous exercer à réfléchir. Le Seigneur vient de briser nos cœurs, n'est-ce pas? Donc, il est question ici de l'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi. Nous l'avons vu il y a 2 mois. Écoutez, c'est bien. Mais il y a un temps où la pratique sera aussi nécessaire, n'est-ce pas? On apprend, on écoute, on accumule, on amasse les connaissances. Mais il faut qu'à un certain moment, que tu puisses mettre ces connaissances en pratique pour que l'on sache effectivement tu as été un bon élève. Tu as très bien assimilé tes leçons. Alléluia. La perspective de Salomon, qui est la réflexion, c'est-à-dire la méditation, l'analyse, la prière, pour parvenir à une bonne compréhension claire de la situation
Donc la réflexion est bien indiquée ce soir. Puisque si tu n'es pas capable de méditer, d'analyser, de prier pour parvenir à une bonne compréhension claire de la situation, tu risques de taper à côté, n'est-ce pas? Donc pour agir, mon frère, ma sœur, convenablement à ce qui est arrivé ou à ce qui peut arriver, je pense que nous devons nous poser de bonnes questions surtout. Alléluia. Nous devons apprendre à nous poser des bonnes questions quand nos cœurs sont brisés, quand il y a quelque chose qui ne va pas. La première réaction qu'il faut apprendre, il faut être capable de se poser des bonnes questions par rapport à la situation qui est devant toi. Alléluia. C'est à cela que Salomon te ramène. Réfléchis au jour du malheur. Qu'est-ce qui se cache derrière cette épreuve? Qu'est-ce qui se cache derrière cette mort? Est-ce c'est la main de l'Éternel? Vous savez, dans les condoléances à la famille Stadclève, le messager, on lui a demandé des choses, puisque la mort était là. À la page 10, paragraphe 20, il dit, « Et puis ce matin, lorsque j'ai cherché, et hier soir, pendant que j'ai cherché la parole du Seigneur pour vous, alléluia, c'est-à-dire, la mort était là. La mort était là, et les gens ont tourné le regard vers l'homme de Dieu. Il dit, et puis ce matin, lorsque j'ai cherché, et hier soir, pendant que je cherchais la parole du Seigneur pour vous, la parole du Seigneur est venue en moi en ces termes. Hein. Ne réprimande pas ça, car c'est la main du Seigneur. C'était si doux et aimable. Ainsi, comme je vous l'ai dit ce matin, sœur, calme-toi, ma petite. Tranquillise-toi. C'est Dieu qui a appelé. Il sait ce qui est mieux. Et confie-toi dans la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu te poses des questions comme ça, est-ce la main de Dieu? Va maintenant dans la prière, c'est ça que recommande Salomon, n'est-ce pas? Va prier, reste focus pour que tu saches effectivement comment tu peux te comporter. Et tu peux aussi aller plus loin. Quelle leçon puis-je en tirer? Ce qui m'arrive là, quelle leçon il y a derrière ce qui m'arrive, n'est-ce pas? Parce que nous savons bien que Dieu fait de grandes choses que nous ne comprenons pas, dit Job 37, verset 5. N'est-ce pas? Dieu fait de grandes choses que nous ne comprenons pas, dit Job 37, verset 5. Justement, en parlant de Job, Noah, amen. Quand tu prends Job 1er, jusqu'au verset 4, tu peux lire, attends, puisque sinon, si tu n'es pas dans l'affaire, attends, je vais t'indiquer. Verset 13.
Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux.
Jusqu'au verset 20, hein? Vite.
Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Il s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. »
Oui. Verset 20.
Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna.
OK. Job 37, verset 5, nous dit que Dieu fait des grandes choses que nous ne comprenons pas. Alléluia. Alors, ce même Job, mes chers frères et sœurs, va subir un quadruple assaut satanique permis par Dieu lui-même. Alléluia. Premier assaut, les Sabéens. Deuxième, feu de Dieu. Troisième, bande de Chaldéens. Quatrième, vent fort. Job, en tant qu'humain, pouvait voir les Sabéens, le feu de Dieu, bande de Chaldéens et vent fort. Or, ce qui lui arrive était décidé dans un concert au ciel. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu. Mais toi, en tant qu'humain, tu vas constater la mort. Tu te dis, mais qui m'a fait ça? Alléluia. Alors ici, Job va subir un quadruple assaut satanique permis par Dieu lui-même. Au chapitre 2, verset 6, il est écrit, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Vous avez vu? Seulement épargne sa vie. Donc, dans le monde spirituel, il y a Satan qui se promène et rencontre Dieu. Et quand Satan rencontre Dieu, Dieu prend le courage de vanter son fils en termes « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et il donne des qualificatifs. Alléluia. Alors Satan, comme il n'aime pas ça, il dit, hé, toi là, tu crois que c'est d'une manière de désintéresser que ce monsieur te sert. Essaie seulement de faire ça, de faire ça, de faire ça. Tu verras, il te maudira en face. Il dit, oh, laisse tomber. Celui-là, je le tiens entre mes mains. Il ne trahira jamais. C'est vraiment un HBC2. Il ne trahira jamais. Alors, Job va subir, chers frères et sœurs, va subir un quadruple assaut satanique permis par Dieu. Alors, en ce moment-là, si tu n'es pas connecté, tu seras dans tous tes états. Alléluia. Tu traiteras Dieu de tous les mots possibles. Alléluia. Tu trouveras des sorciers partout. Alléluia. Mais il a tout perdu. En cascade. Alléluia. En un jour, en quelques heures, Job a tout perdu. Mais quand vous observez ce monsieur, il est resté zen. Alléluia. Il est resté zen. Il n'a jamais pipé un mot de travers par rapport à Dieu. Jamais. Et c'est là où la réflexion, elle est nécessaire. C'est là où la relation avec Dieu est nécessaire. Une relation approfondie avec Dieu te permet de réfléchir, te permet de méditer, te permet de comprendre la situation au clair. Alléluia. Dieu permet à Satan de toucher Job. Mais il lui dit,
seulement épargner sa vie. Alors, mon frère, ma sœur, je veux ouvrir rapidement une parenthèse que je vais fermer aussi. N'attribuons pas à Satan le pouvoir qu'il n'a pas. Alléluia. N'attribuons pas à Satan le pouvoir qu'il n'a pas. Parce que, regardons un peu le cas de Job. Quatre éléments qui le ruinent. Mais il est resté zen. N'attribuons donc pas à Satan le pouvoir qu'il n'a pas. Il est écrit ceci, Noah, psaume 90, verset 3. Suivez très bien. N'attribuons pas à Satan le pouvoir qu'il n'a pas.
Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez.
Ok. Qui fait rentrer les hommes dans la poussière? Qui fait rentrer les hommes dans la poussière? Tout ceci, vous savez, tout ceci, les Sabéens, le feu, bande de Chaldéens, vent fort, ce sont des moyens que Dieu utilise pour que nous retournions chez lui. Alléluia. Donc la maladie, les sorciers, tout ce que vous voulez, les sorciers, c'était un agent de Dieu. Alléluia. C'était un agent de Dieu parce que lui n'a pas le pouvoir de te faire retourner. Lis un peu Noah.
Tu fais rentrer les hommes dans la poussière.
Voilà, Satan n'a pas le pouvoir de te faire rentrer dans la poussière. Est-ce que tu m'entends? C'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu. Les démons, Satan, tout ce que tu veux, n'a pas le pouvoir, Mutombo, de te faire rentrer dans la poussière. C'est Dieu qui dit, fils de l'homme, retourne selon le temps qu'il t'a donné. Alléluia. Puisqu'il est écrit aussi dans le livre des psaumes, mes destinées sont entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? Mes destinées ne sont pas entre les mains de Satan. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, ce soir, je t'exhorte d'être connecté à la spiritualité. Il faut être spirituel pour pouvoir juger de tout et pour pouvoir comprendre la situation qui se passe autour de toi. Alléluia. Regardez ici, vous avez vu? Quadruple assaut satanique, mais permis par Dieu. Nous sommes d'accord? Donc en sortant d'ici, vous devez avoir un esprit clair. Un esprit clair par rapport aux assauts sataniques que nous pouvons subir. Alléluia. C'est pour cela que je disais, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se cache derrière cette épreuve? Est-ce la main du Seigneur? Quelle est la leçon que je peux en tirer? C'est très important. Alors, évitons d'être comme les amis de Job. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Noah, quand ils ont appris ce qui est arrivé à Job, je pense, chapitre 3. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chapitre 3. Non, attends. Chapitre 4. Oui, 4. Les deux premiers versets, peut-être, oui.
Eliphaz de Théman prit la parole et dit, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence?
Voici. Non, c'est pas ça. 11. Oui. Job 2, 11.
Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Sophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés.
Oui.
Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande.
Oui. Donc, ils sont en empathie, bien sûr. Hein? Ils sont bienveillants, bien sûr, comme nous pouvons le faire, bien sûr. Quand j'ai dit ne soyons pas, évitons d'être comme les amis de Job. Parce que, au verset 42, versets 7 et 8, écoutez ce que Dieu dit de ses trois amis. Job 42, versets 7 et 8.
Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman.
Oui.
Ma colère est enflammée contre toi.
Oui.
Et contre tes deux amis.
Uh-huh.
Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job.
Vous avez entendu? Vous avez entendu? Mais au verset 11, chapitre 2, verset 11 jusqu'à 13, nous voyons que ces gens ont manifesté de l'empathie. Alléluia. Ils sont allés consoler le frère Job, n'est-ce pas? Ils ont pleuré avec Job, n'est-ce pas? Pleurons avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Mais attention, 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 dans les déroulements, comme Dieu voit le cœur, Dieu a estimé qu'ils n'ont pas parlé de lui comme l'a fait son serviteur Job. Alléluia. Donc faisons attention. Faisons attention. Alors qu'ici, nous voyons bien le tableau, il s'était assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits. Voyez-vous? Ils ont quitté leur maison pour aller consoler Job 7 jours, 7 nuits. Bien sûr, Dieu voit le spectacle. Dieu voit le spectacle que nous sommes en train de faire. Mais attention, est-ce que le cœur y est? Mon frère, ma sœur, est-ce que le cœur y est? Ou bien ce n'est pas formalité? C'est important. Vous n'allez pas me dire autre chose, puisqu'ici, nous voyons ce qui est décrit au chapitre 2, versets 11 à 13. C'est vraiment, on montre de l'humanité. Vrai ou faux? On montre l'humanité, mais à la fin, Dieu dit que c'est faux. Vous étiez faux. Voilà pourquoi je vous dis, ne soyons pas comme les amis de Job. Ça va? Ça va, ça? On ne vous raconte pas des histoires. Mais c'est la parole de Dieu qui est mise devant nous. La réalité de la parole de Dieu. Dieu n'a pas apprécié les trois amis de Job. Alors que, de toute une semaine, ils ont abandonné leur maison à Mutombo. Hein. 7 jours, jour et nuit, ils étaient chez Job. Mais ça n'a pas plu au Seigneur. Nous continuons. Mon frère, ma soeur, celui qui vit doit prendre la réalité de la mort à cœur, c'est-à-dire y réfléchir sérieusement. Ecclésiaste 7:2, Noah. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin.
Voilà.
Car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur.
Ah! Le temps de la séparation. Les sages nous invitent à la réflexion. Et il nous dit, dans une maison de festin, ok, puisque c'est le jour, on est joyeux, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Mais au jour du malheur, c'est-à-dire dans une maison de deuil, là, tout le monde peut prendre cela à cœur. Alors, nous devons bien réfléchir à la brièveté de la vie. Le cœur des sages est dans la maison des deuils plutôt que de se livrer à des plaisirs insensés. Autrement dit, une réflexion sérieuse vaut mieux que la frivolité. Je dis bien, une réflexion sérieuse vaut mieux que la frivolité. Et évitons surtout les lamentations. Réfléchir n'est pas égal à se lamenter. Alléluia. Parce que quand tu te lamentes, tu ne verras que du feu. tu ne verras que l'amertume. Alléluia. Tu ne verras que des choses du côté négatif. Attention. La mort est une échéance cruciale. N'est-ce pas? La mort est une échéance cruciale, mon frère, ma soeur. Genèse 2, le texte qui nous a permis d'avoir le contexte. Genèse 2, versets 16 et 17.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Certainement, ça manque. Tu n'as pas certainement.
Certainement.
Et alors, pourquoi est-ce que tu as omis? Il n'y a pas chez toi. Attends. Je vérifie chez moi. Ah, chez moi, certainement. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, dit Scofield. Alléluia. Tu mourras certainement. C'est pour cela que je parlais d'un ton affirmatif. Dieu n'est pas dans des suppositions. Dieu est affirmatif. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc nous pouvons simplement observer que l'Éternel a donné à Adam une révélation de la mort sous forme d'avertissement. Alléluia. Dieu donne à Adam une révélation de la mort sous forme d'avertissement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, la mort était là, mais inoffensive. Alléluia. La mort était là, mais inoffensive. Et qu'est-ce qui va activer la mort? C'est la désobéissance. Alléluia. Mais sinon, la mort est inoffensive. Elle est là. Mais Dieu prévient. Et Dieu donne la révélation à Adam sous forme d'avertissement. Et nous devons constater que la mort est inoffensive. Si tu obéis, tu n'auras jamais la mort. Mais si tu désobéis, tu auras la mort. Et comme ça, Adam est placé sous le libre arbitre. Alléluia. Adam est placé sous le libre arbitre de faire un bon choix. Continuons. La mort est là. La parole parlée est la semence originelle. Il a prêché le matin et le soir. Je prends la partie matin à la page 19. Il n'y a pas de paragraphe. Je disais, la mort était là, mais inoffensive. Le Saint-Esprit, qui était dans le jardin d'Éden, devait arroser la semence. L'homme n'était pas fait pour mourir. Alléluia. L'homme n'était pas fait pour mourir, il était fait pour vivre. Mais l'hybridation apporta la mort. Ève l'hybrida. Maintenant, vous niez la semence du serpent. Alors je vous demanderai, pourquoi y a-t-il ces services funèbres? Ève était hybride. Chacun de nous est hybride depuis le commencement. Alléluia. Chacun de nous est hybride depuis le commencement. Pourquoi? Parce que le moyen prévu par l'Éternel pour que nous puissions être là, n'est pas le sexe. Alléluia. N'est pas le sexe Puisque quand nous remontons vers Marie, elle dira qu'elle me soit faite selon ta volonté. Elle a eu la semence. Et c'est ça que nous voyons quand le Seigneur va naître. Alléluia. Alors ici, maintenant vous niez la semence du serpent. Ève était hybride. Chacun de nous est hybride depuis le commencement. C'est la raison pour laquelle vous êtes constamment en train de mourir. Alléluia. Mais oh Dieu, il y a un germe de vie qui vient de la véritable semence que Dieu prouva être sa semence. Il le ressuscita. Voyez? Alors, à la page 13, pourquoi est-ce que Ève va hybrider la semence? La raison pour laquelle Ève put faire ce qu'elle a fait de sa propre semence est parce qu'elle n'était pas dans la création originelle. Elle est un dérivé de l'homme. Elle n'est pas dans la création de Dieu. Dieu créa le tout. Ensuite, il prit une partie de sa création et il en fit une aide. C'est la raison pour laquelle vous pouvez hybrider un âne, un cheval, mais cela ne durera pas. C'est la mort. Mais la semence originale a la vie. L'original a la vie. C'est la raison pour laquelle je pense que le culte, les dénominations et les organisations meurent. L'histoire prouve qu'ils sont tous morts. Ils ne sont jamais plus relevés. Ils ne les feront jamais. Ils ne peuvent se reproduire. Ils n'ont rien avec quoi se reproduire. Ils sont stériles. C'est pourquoi les enfants d'Ève meurent. Maintenant, quand il revient l'après-midi, quand il vient pêcher l'après-midi, à la page 56, il dit, il n'y a pas de paragraphe, hein. Après qu'il lui fait l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu. Après qu'il lui fait cela, ne manquez pas cela. Après que Dieu eut fait l'homme à son image, sa parole parlait, c'était un homme parfait. Mais la chute vint quand il prit de lui un dérivé et en fit une épouse pour cet homme. C'est là le problème aujourd'hui. Si vous étiez spirituel, vous auriez déjà saisi ces choses, vous voyez? Ce n'est pas Adam qui tomba dans les difficultés. Ce n'est pas Adam qui douta de la parole. C'est son épouse qui douta de la parole. Et ce n'est pas Jésus qui doute de la parole. Il est la parole. C'est son épouse. C'est là que se produit l'hybridation. Elle ne vint pas par Adam. Honte à vous qui ne voyez pas cela. Ce n'est pas la faute d'Adam. Il n'avait rien à faire avec cela. Si la mort vient par Adam, alors elle vient par Dieu. La mort vient par un croisement. La mort ne peut pas venir par la parole de Dieu. La mort vient en croisant la parole de Dieu avec les dénominations et les credos. À la page 57, il continue. L'épouse d'Adam était un type de l'épouse du dernier Adam. L'épouse d'Adam ne pouvait pas attendre. Dieu avait dit à Adam et Ève, multipliez et remplissez la terre. C'était une chose à venir, une promesse. Alléluia! Elle n'était pas encore sa femme parce qu'il n'avait pas encore vécu avec elle. L'épouse de Christ n'est pas encore sa femme. Le souper des noces doit encore avoir lieu. Comprenez-vous cela? Remarquez combien c'est riche. Elle était pressée alors. Que fit-elle? Elle croisa sa semence, elle la mélangea avec la semence du serpent, et lorsqu'il y fait, qu'enfanta-t-elle? Elle enfanta un enfant mort. Alléluia. Elle enfanta un enfant mort. Bref, c'est pour cela que Jacques 4, 14 dit,
vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît.
Et Paul, s'adressant aux Hébreux 9, verset 27, il dit, Hébreux 9, verset 27,
« Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?»
Bref, nous sommes nés pour mourir, vous avez vu la cause. Alléluia. Nous sommes nés pour mourir, la cause a été bien décrite. Quand vous avez le temps, lisez ou écoutez cette prédication, la parole parlée et la semence originelle. Ce sont des extraits que je viens d'isoler. Mais quand vous lisez ça, vous comprenez encore plus la question de la mort. Alléluia. Nous sommes nés pour mourir. Alors, toi et moi, face à la mort, quelle est notre attitude? Nous avons vu l'attitude de Job. Bam! Quatre assauts sataniques. Chaos. D'ailleurs, sa femme va se rébeller en lui disant, mais dis-toi, ta foi là. Tu continues à faire confiance à ce Dieu qui nous a dépouillé tout. Il a tout pris. Maudit Dieu, mais. Alors maintenant, mon frère, ma soeur, ce soir, face à la mort, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude depuis la chair? Je pense que la perspective de Salomon doit être très bien exploitée. La réflexion. La réflexion. Tu es invité dans une fête, c'est bon, on se réjouit. Mais dans un lieu de deuil, il faut bien réfléchir. N'y va pas par habitude. N'y va pas, sinon que dira-t-on? Mais quand tu y vas, tu dois être un homme expérimenté dans la réflexion par rapport à ce que tu vois. Alors je peux dire, un HBC2 ne craint plus la mort du corps parce que le destructeur du corps sera détruit. Qui est le destructeur du corps, Noah?
Satan.
La mort.
La mort.
Un HBC2 ne craint plus la mort du corps parce que le destructeur des corps sera détruit. Il est écrit ceci, 1 Corinthiens 15, versets 25 à 26, pour être convaincu. 1 Corinthiens 15, versets 25 à 26.
Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
Tu as entendu, hein? Tu as entendu? Le destructeur de corps, il sera détruit, petit. Tu comprends ça? Ce n'est pas du théâtre. C'est la parole de Dieu qui a tout créé. Alléluia. Et la parole de Dieu qui a tout créé, Moutombo nous dit, le destructeur de corps sera détruit. Continue, Noah.
Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté.
Voilà. Alors, 2 Timothée 1. 2 Timothée 1, versets 9 et 10. 2 Timothée 1, versets 9 et 10.
Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile.
Ok. Tu as entendu? Tu as entendu? Des bonnes choses qui doivent réjouir nos cœurs. Quelle joie de comprendre que la mort n'est pas le point final de notre histoire. Alléluia. Puisqu'il sera détruit. Dieu a donné tout le plan de la rédemption. Amen. Il faut être connecté. Quand on est connecté, les choses seront atténuées comme quand tu tombes sur un matelas. Tu auras moins de choc que de tomber sur les pavés. Quand tu tombes sur le matelas va réduire le choc. Donc même quand ceci arrive, les assauts sataniques arrivent, mais quand la parole de Dieu est là comme ton matelas, hein, tu vas continuer à combattre. Alléluia. Tu vas continuer à combattre. Quelle joie de comprendre que la mort n'est pas le point final de notre histoire. Une vie la suit. Et cette vie s'appelle la résurrection. Alléluia. Cette vie s'appelle la résurrection. 1 Corinthiens 15, versets 16 et 18, Noah. 1 Corinthiens 15, versets 16 à 18.
Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus.
Voilà. Et quand vous allez dans Apocalypse 1, verset 18, Jean fait référence à Christ, le vainqueur de la mort. Apocalypse 1, 18.
Je suis le premier et le dernier et le vivant.
Oui.
J'étais mort et voici, je suis vivant.
Voilà.
Au siècle des siècles.
Voilà.
Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.
Tout à fait. Donc, Jean fait référence à Christ, le vainqueur de la mort. Il est ressuscité. Alléluia. Alors maintenant, ce n'est pas avec nos yeux là naturels que nous comprenons ces choses. Mais il faut que les yeux de notre cœur soient illuminés pour que nous puissions saisir ces choses. Alors pour terminer cette réflexion de ce soir, je veux bien te dire qu'avec la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les HBC2 ont également reçu la victoire sur la mort, selon Romains 8, verset 37, Noah.
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Voilà, donc nous avons également reçu la victoire sur la mort, parce que il est bien dit, ni la mort, ni nous séparer de l'amour de Christ, alléluia. Donc, ces destructeurs de corps, est détruit. Alors il faut exercer ta foi pour le voir. Mon frère, ma soeur, quand des assauts sataniques t'atteignent, pleurer, c'est ce qui est le plus naturel, n'est-ce pas? Pleurer, c'est naturel. Jean 11, 35, Noah, qu'est-ce qu'il est écrit? Jean 11, 35.
Jésus pleura.
Ça va. Jésus pleura. L'un des versets le plus court de la Bible. C'est un exemple poignant d'humanité du Seigneur, montrant qu'il ressentait la douleur et la tristesse comme nous le faisons tous quand ça nous arrive, n'est-ce pas? Alors, mon frère, ma soeur, nous pouvons maintenant observer Jean 11, verset 38. Après que le Seigneur ait pleuré au verset 35, qu'est-ce qui est écrit?
Jésus, frémissant de nouveau en lui-même.
Quand il arrive,
se rendit au sépulcre.
Très bien.
C'était une grotte et une pierre était placée dessus.
Voilà.
Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà.
Ça va. Donc, quand il arrive au tombeau de Lazare, il ressent à nouveau une émotion forte qui est exprimée par le mot frémissant. Alléluia. Frémissant. Cela montre sa profonde compassion et son empathie pour ceux qui souffrent. Donc, pleurer n'est pas mauvais. Celui qui savait qu'il avait la clé de mort et de séjour de mort, mais devant Lazare, alors qu'il avait le pouvoir, mais il a quand même manifesté une émotion. Il a pleuré, il a frémi, tout ça, c'est pour nous montrer son humanité. Donc, il n'est pas interdit de pleurer. Mais attention, il faut rester connecté. On pleure et après, il faut revenir. Parce que vous voyez, quand il a pleuré, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des ordres. Alléluia. Après, il va faire une prière d'action de grâce, n'est-ce pas? Il va faire une prière d'action de grâce.
Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
Voilà. Donc, il ne s'éternise pas dans les émotions, mais il entreprend des actes. Alléluia. Il entreprend des actes. Pendant le moment difficile, regardons ce que Job a subi. 4 assauts sataniques permis par Dieu lui-même. Alors, pendant ces temps difficiles, repassons dans nos cœurs ce qui nous donnera de l'espérance. Noah, il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13-14.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
Voilà ce genre de choses quand je dis que se nourrir de Christ. Tu dois te nourrir de ses paroles. Et ce sont ces paroles qui t'apporteront la consolation quand tu subis les 4 assauts comme ça. En tout cas, en tant qu'humain, c'est difficile sans Dieu pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé dans la vie de Job. Laissons donc agir le Seigneur. Reconnaissons sa volonté souveraine. Alléluia! Laissons donc agir le Seigneur. Reconnaissons sa volonté souveraine. Lui seul peut accomplir le miracle demandé ou le refuser. Alléluia. Ouvre tes oreilles et toi qui vas m'entendre à la maison. Dieu seul peut accomplir le miracle demandé ou le refuser. Notre rôle est de ne pas être découragé, déstabilisé lorsque sa réponse n'est pas celle que nous attendons. Ah, ça pose beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Notre rôle est de ne pas être découragé, ni déstabilisé, lorsque sa réponse n'est pas celle que nous attendons, et de continuer à prier et à croire qu'il aime récompenser ceux qui le cherchent. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Noah,
oui.
Lis un peu psaume 27, les 4 premiers versets. Mais je pense que c'est le dernier verset qui m'intéresse. 4 premiers versets, psaume 27.
L'Éternel est ma lumière et mon salut.
Oui.
De qui aurais-je crainte?
Oui.
L'Éternel est le soutien de ma vie.
Suivez bien. On appelle ça, dans la Bible, il est écrit, les triomphes de la foi.
L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si l'armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à
l'Éternel. Jusque-là, même une guerre contre moi, quelle sera mon attitude, Noah?
La confiance. Je serai malgré cela plein de confiance.
Voilà. Il faut avoir confiance en Dieu parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Tu ne peux pas tout prévoir ou tout comprendre parce que tu es un humain. Alléluia. Tu ne peux pas tout prévoir et tout comprendre parce que tu es un humain. Dieu, c'est le maître de temps et de circonstances. Tu es censé lui faire confiance dans n'importe quelle circonstance. Tu peux pleurer. Nous avons vu le Seigneur, n'est-ce pas? Tu peux pleurer. Mais attention, ce n'est pas l'essentiel. Alors, tu retiens ceci. Nous terminons par Proverbe 25, 11. Noah.
Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos.
Voilà. Donc, pourquoi est-ce que le Seigneur a condamné les trois amis de Job? Parce qu'ils n'avaient pas de parole à propos. Donc, nous devons, quand ceci nous arrive, nous devons avoir des paroles à propos. On parle de pommes d'or, hein?
Des ciselures d'argent.
Prenez pour Proverbe 25, verset 11. Tu commences à lire.
Comme des pommes d'or.
OK. Pommes d'or représentent des paroles agréables et précieuses.
Sur des ciselures d'argent.
OK. Ciselures d'argent évoquent un cadre élégant et précieux. Ainsi, cette image suggère que des paroles bien choisies, prononcées au bon moment, ont un impact positif sur la suite des événements.
Amen.
Alléluia. Alors, mes frères, mes sœurs, voici un peu ce que j'avais sur le cœur à partager avec vous ce soir, parce qu'on ne peut pas être comme des enfants qui apprennent. Mais quand arrive l'application, on est vraiment dépourvu de tout. Non. C'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager ces sujets, le temps de la séparation. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je l'aime, je l'aime. Qu'il m'aima le premier et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Je l'aime. Demandez à frère Emmanuel de prier pour la parole que nous venons d'entendre et pour congédier l'Assemblée.
Seigneur, mon Dieu, je te donner ce soir.
remercions pour cette parole qui a été proclamée. Nous demandons seulement de venir et de la confirmer en chacun de nous, donnant à chacun la révélation pour que nous puissions la vivre et la mettre en pratique, Seigneur. Nous confions entre ta main pendant cette période un impact, un effet, Seigneur Jésus, sur nous et sur tous les autres, Père. Accorde-le pour ta gloire et pour ton honneur. Prends-nous par la main, conduis-nous et garde-nous plus près de toi, pendant que nous te le demandons, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Notre culte de ce soir est terminé.